Point numéro 4, rapport sur l'activité. Mais le schéma, j'ai fait voter, il n'y a pas eu d'expression contre. Excusez-moi, c'est moi qui préside ici. Bon, et donc on a un point numéro 4, rapport sur l'activité des SEML UEM et Metz Technopole, ainsi que des SPL, Metz Métropole, Congrès, SAREM, exercice 2014. Alors, j'ai demandé au service de vous envoyer quatre rapports que vous avez reçus, qui parlent de la situation de l'UEM, de la situation de Metz Technopole, la SEM Métropole, de la situation de Metz Moselle Congrès, Metz Métropole Congrès et de la SAREM. Vous les avez reçus et je vous demande si des gens souhaitent intervenir. Et la réponse est, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 intervenants inscrits. Alors, première intervenante, Madame Grollet, sur ces rapports.
Vous doutez de notre vote de toute façon. Là, c'est pareil, je pense que c'est 4 points qui vont revenir assez souvent dans nos débats. Et cet avenant numéro 1 n'est sans doute pas le dernier, puisqu'il y a eu beaucoup de clarifications, de choses à mettre en place, semble-t-il. Donc je rappellerai juste que sur les dépenses dans ce rapport, on obtient enfin l'état des financements du Palais des Congrès. On arrive donc à un coût de 56,9 millions, en oubliant le déménagement du répéteur, 7 millions, en oubliant que Metz Métropole Développement est chargé du bureau des congrès, structure sortie du chapeau après la convention qu'on avait votée avec M3 Congrès, en décembre dernier. 100 000 euros de subvention de la ville de Metz qui viennent encore s'ajouter avec ceux de Metz Métropole pour embaucher un directeur à ce bureau, directeur chargé de vendre la destination Metz, comme si ça n'était pas déjà le travail de Metz Métropole Développement. Donc 200 000 euros de plus en fonctionnement pour le Palais des Congrès et il y aura certainement encore d'autres dépenses. Sur les recettes, on acte donc le forfait du département de Patrick Weyten. Exit la participation de la Moselle, victime donc de règlements de comptes politiques, ce sont les contribuables. Quand allez-vous donc rebaptiser M3 Congrès en M2 Congrès ? Le Conseil régional, pour lui, s'en tient à une aide à l'équipement touristique. Vous avez donc réduit la voilure et surtout, vous avez frappé à la porte des banques. Et miracle de la communication, vous avez réussi à faire titrer Palais des Congrès, le financement est bouclé, alors qu'il s'agissait juste d'un emprunt qui a été réalisé auprès de la Caisse des dépôts et non pas d'un nouveau participant autour de table. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je laisse la parole au suivant.
Merci, madame. Alors, madame Collin-Sterlet, on est toujours sur le point numéro 4. Hein. Vous passez votre tour. Merci, madame. Emmanuel Lebeau, s'il vous plaît. Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, juste une petite remarque sur le rapport d'activité qu'il fournit sur l'UEM et avoir un certain nombre de réponses, puisque si on regarde l'UEM, oui, c'est sur le point là. Hein. Donc le chiffre d'affaires a baissé de 11 millions d'euros. Alors, on est passé de 243 millions à 232 millions. Et le résultat, lui, a diminué de plus de 50%. Le résultat consolidé de l'UEM. Hein. Donc, avoir les perspectives à venir, puisque aujourd'hui, si on regarde la capacité contributive de l'UEM aux finances de la ville, ce qui revient avec le point 1, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épargne nette qu'à la ville, c'est 100% le dividende qu'elle reçoit. Donc, on a un intérêt fort à veiller à ce que l'UEM se porte bien et quand on voit des bénéfices en baisse de 50%, un chiffre d'affaires en baisse de près de 5%, on peut commencer à s'inquiéter. Je vous remercie.
Merci, Madame Isler-Béguin.
Oui, Monsieur le maire, je vais être également très courte et c'est vrai que si on peut vous féliciter d'aller présenter les bons résultats de la holding, de l'UEM et de son fonctionnement et des investissements pour réduire la consommation d'énergie des bâtiments à Paris, c'était le résultat du mandat précédent. Et moi, ce que je souhaite, Monsieur le maire, et j'insiste encore une fois, c'est d'avoir les mêmes aussi bons résultats pour la fin de ce mandat-là. C'est pour ça que je demande que nous puissions, lors de la COP22-23, également présenter des résultats pour la ville et des investissements pour la ville. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, il y a le rapport de l'UEM, et l'UEM, bon, est tout à fait intéressant dans ce sens, parce que l'UEM est en train de se diversifier, c'est une holding, donc elle se lance dans les énergies renouvelables, les éoliennes, c'est très bien. Nous avons des éoliennes maintenant qui sont achetées sur les parcs lorrains, c'est très bien. Ce que je souhaiterais, et là je m'adresse surtout aux membres du conseil d'administration de l'UEM ici, au conseil municipal, c'est qu'on aille plus loin. C'est-à-dire que nous avons par exemple sur le Technopole des toits qui peuvent être utilisés pour le photovoltaïque. Donc l'UEM doit pouvoir aussi investir sur la ville, sur Metz Métropole. Il y a juste à côté des hangars énormes des paysans qui installent des usines photovoltaïques. Pourquoi ne pas le faire sur la ville? Et là, monsieur le maire, j'insiste également, par exemple, de pouvoir aider les personnes qui souhaiteraient aussi mettre des panneaux photovoltaïques sur des zones, sur des secteurs sauvegardés. Et là, je souhaiterais mettre en place, et je vous en ai déjà parlé, un projet avec d'autres villes de France et d'Europe pour justement forcer à ce qu'on prenne en considération les espaces sauvegardés pour qu'on puisse proposer aux populations d'avoir les mêmes possibilités qu'ailleurs. Donc voilà, c'était une fois de plus pour insister sur ces questions-là que je m'adressais et que je me suis permis parce que, évidemment, on est au plein cœur du sujet. Et monsieur le maire, je voudrais dire que les 20% d'économie d'énergie et les 20% de réduction de CO2 que nous avons réalisé, que vous avez réalisé lors du prochain mandat, cette fois-ci, ce sera plus dur, monsieur le maire, parce qu'il faut arriver à 40%. Quand je parle de 2 degrés Celsius, c'est un impact considérable sur nos économies. Et ça, je crois que ce n'est pas encore suffisamment ancré. C'est pour ça que je me permets d'insister. Je vous remercie de votre écoute.
Merci, madame. Merci, madame. Il reste un orateur inscrit, monsieur Belhadad. Monsieur Belhadad qui passe son tour. Ben, écoutez, je vais laisser la parole à monsieur Thierry Jean pour répondre sur le même. Je voudrais tout de suite répondre à madame Isler-Béguin parce que c'est toujours le sens de la préfiguration du futur. Effectivement, je suis très fier d'avoir été invité à la COP21, à donner témoignage sur ce qu'on a fait ici. Vous dites au prochain mandat, en fait, c'est au dernier mandat, en fait, pour l'essentiel. Hein. L'UEM a maintenant à sa disposition 70 mégawatts en énergie renouvelable, et l'UEM est vendeur d'énergie verte. Il y a une société qui s'appelle Energreen, hein, qui vend directement de l'électricité verte, garantie. Et nous avons des opérateurs qui font des appels d'offres en demandant à être fournis en électricité verte. Par exemple, le groupe Veolia, qui gère au titre de fermier de la ville de Metz un important réseau d'eau qui concerne non seulement d'ailleurs le secteur au sens large de l'agglomération messine, mais également d'autres secteurs, a fait un appel d'offres et c'est lui-même qui a gagné cet appel d'offres parce que c'était une demande en énergie verte. Donc c'est des domaines sur lesquels on peut avancer. S'agissant du photovoltaïque, nous avons un champ de 5 MW photovoltaïque à l'UEM. Je dis nous parce que la ville étant actionnaire à 85%, je me sens un petit peu en capacité de dire nous. Dans le midi, à Phare-les-Oliviers, près de Marseille, et au total, 70 MW entre les trois centrales hydrauliques qui sont sur la Moselle, vous les connaissez. On a déjà un beau patrimoine et on va continuer. Vous faites des propositions sur les toitures. Pourquoi pas? Il faut regarder à chaque fois le contexte, les conditions de la CRE, hein, et l'optimisation d'investissement. L'UEM est un vecteur d'énergie propre, hein, et remarquable, mais en même temps, vous l'avez remarqué, c'est un facteur de prospérité pour notre ville. Hein, et je souhaite qu'on mène les deux de front de façon à ne pas affaiblir trop les dividendes, hein, et même pas du tout. Hein, pour faire simple, tout en menant cette politique. Mais nous pouvons le faire parce que Small is Beautiful, partir du terrain, comme c'est le cas ici à Metz, ce qui est exceptionnel en France, nous permet de faire des choses que d'autres grandes institutions, comme par exemple l'EDF, ne peuvent absolument pas se permettre ou le font d'une façon un peu désordonnée en faisant des énormes projets d'éoliens sur la mer, par exemple, mais qui mettent des années à se réaliser, qui sont compliqués. Monsieur Thierry Jean, pour répondre sur le plan comptable à Monsieur Legault.
Oui. Oui, sur les. Enfin,
je ne savais pas que le chiffre d'affaires du M avait baissé.
Si, le chiffre d'affaires a baissé, c'est lié à des conditions climatiques qu'on a déjà connues l'année dernière, hein, ah, oui. Où on a connu un mois de.
Attendez.
Non, mais c'est le mois. En fait, c'est sur le mois de mémoire. Hein, de mémoire, c'est sur le mois de décembre où, effectivement, le chiffre d'affaires a baissé. Le résultat consolidé, lui, il baisse parce qu'on avait connu. En 2013, un résultat exceptionnel sur iFluid, et ce résultat exceptionnel sur iFluid fait que bon, il a un petit peu diminué. Pour revenir sur les énergies renouvelables, aujourd'hui, on n'a pas de modèle économique pour mettre des champs photovoltaïques sur les toits du Technopôle. Pour ça, il y a trois leviers sur lesquels on peut agir. Le premier sur lequel on agit, c'est l'augmentation du rendement. Des panneaux. Et là, il y a un travail excellent qui est mené par Georgia Tech et l'Institut Lafayette, en partie avec UEM d'ailleurs, pour améliorer le rendement des panneaux. Le deuxième levier, c'est tout simplement l'obligation d'achat. Hein. Tout dépend à quel niveau on la fixe, chers collègues. Et le troisième niveau, c'est le prix de l'énergie. Il faut rappeler que nous achetons l'électricité en France beaucoup moins cher que dans la moyenne européenne, ce qui explique qu'il est plus difficile encore en France. Mais ça, ce n'est pas ici qu'on prend la décision, évidemment. Voilà. Donc, sinon, tendanciellement, le niveau de résultat de cette année, et on peut le considérer comme à peu près garanti sur les 5 ans qui viennent. Et sauf accident, le niveau de distribution en 2015 sur les résultats 2014, devrait être récurrent sur les 5 ans qui viennent.
Merci, monsieur Jean. Voilà. Il peut y avoir, juste une remarque, ça m'avait marqué. Un jour, on a perdu la clientèle de PSA. C'était de loin le plus gros client de l'UM. Mais la marge était tellement faible, tellement PSA avait auparavant serré les prix avec l'UM, que la perte de PSA n'a pas été un événement sur le plan des résultats. Ça a été un événement sur le plan du chiffre d'affaires, mais pas sur le plan des résultats. Voilà. Donc, je dois mettre aux voix ces rapports. Ce sont des rapports factuels. Des oppositions.
Une explication de vote.
Explication de vote de M. Debeau.
Parce que je pense que M. Jean donne partiellement des explications qui. Puisque, comme vous avez évoqué la perte d'un grand client, si je lis l'évolution du chiffre d'affaires, il parle. La perte d'un client important et la réduction du trading de production hydraulique qui explique la baisse. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait des informations complètes et pas parcellaires de la part de l'adjoint qui suit ce dossier-là. Merci. Oui. On est pour.
Vous êtes pour. Merci. Et pas d'opposition, donc abstention. Je vous remercie. Oui, il y a un vote sur le rapport, oui. Rapport d'activité. Je me tourne vers les services. Il faut les voter, les rapports. Il faut les voter. Donc, on a bien fait de voter. Merci.